Racines et patrimoine en pays de Haute-Sarthe. Un magazine sur le patrimoine, les coutumes et les traditions. Une émission coproduite par Radio Alpes-Mancelles 106.3 et Fréquence Sillée 97.9. En partenariat avec le pays de la Haute-Sarthe.
En 2003, l'UNESCO a adopté la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Le patrimoine oral, dans son ensemble, constitue l'identité culturelle d'une communauté, d'un territoire. Serge Bertin, docteur en ethnologie, a étudié les cultures locales, notamment le langage. Spécialiste du parler sartois, il est l'un des auteurs du dictionnaire du parler sénoman.
Serge Bertin, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, Serge Bertin, qui êtes-vous, pour commencer?
Ah, question piège.
Elle n'était pas prévue.
Elle n'était pas prévue, non. Ben, moi, je suis naturellement sot, comme on aime dire. C'est-à-dire que je suis né au Mans, et puis j'ai fait... Ancien instituteur, j'en suis fier.
Oui.
Ancien instituteur public. J'en suis très fier, et donc j'ai poursuivi des études d'ethnologie plutôt vers la fin de ma carrière. Et je suis maintenant en retraite et je suis très attaché à mon pays.
On va revenir un petit peu sur un de tes sujets d'études il y a quelques années avec le gros travail sur le dictionnaire du parler sartois, du parler sénoman, ce qui va nous permettre aujourd'hui de parler justement de cette langue sartoise. Et justement, pourquoi est-ce qu'on parle de ce parler sartois et pas de dialecte ou de langue régionale ni de patois?
Ah oui, hein, donc d'ailleurs tu as employé le terme de langue régionale, oui. C'est vaste sujet. Hein. On évite d'employer le terme de patois parce qu'il y a un petit côté péjoratif et trop souvent, à mon avis, les sartois eux-mêmes, hein, qui sont assez friands d'auto-flagellation, les sartois disent « Oh ben le patois, c'est une déformation du français, et c'est pas autre chose hein. ». Or, Roger Verdier, dont on ne louera jamais assez le courage, a montré que le patois, appelé ainsi, était un parler, c'est-à-dire qu'il... Il a ses sources qui lui sont propres. Ses sources, c'est le vieux français, bien sûr. C'est le latin, le bas latin. Et il est, comme il disait, le père Verdier disait, le sartois, ça qu'est point un kenio dégénéré du français, ça qu'est un cousin du français. En réalité, donc, le patois... Enfin, j'ai tort d'employer ce terme de patois. Le parler sartois a ses lettres de noblesse. Il est originaire du bas latin, tout comme le français. Je dois préciser que une de nos hypothèses, c'est que le parler sartois, qui n'est finalement pas très 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 original en soi, fait partie d'une grande famille linguistique. Qu'on appellera à ce moment-là, moi que j'aimerais bien appeler une langue de ce qu'on pourrait considérer comme un parler de l'Ouest intermédiaire, situé entre le parler parisien, qui a eu son succès et qui est devenu le parler français, et le parler breton, la langue bretonne, qui a aussi sa propre caractéristique. Et dans ce parler linguiste, ce parler intermédiaire, ce que par souci de la provocation, j'appelle le Middle West linguistique, eh bien, on comprendrait, hypothèse simplement donc conditionnelle, le normand, le parler gallo de la région de Rennes, le parler mayennais, le parler dit sartois, sachant que c'est le parler du Maine, tout simplement, mais aussi, pourquoi pas, le parler tourangeau, le parler angevin, et allons, pourquoi pas, non plus jusqu'au parler poitevin de la langue d'Oï. Vous voyez, on est là dans un ensemble qui me paraît relativement cohérent, dans une certaine unité.
Et donc, comment définir alors ce que c'est qu'une langue régionale ou un dialecte? Quelle définition tu en donnes, toi?
Langue régionale ou dialecte, j'avoue que je fais pas une très grosse... À mon niveau, je fais pas une très grosse différence. Je crois qu'il faut, se garder de se gargariser de termes savants. On se situe dans un ensemble linguistique. Hein. Soyons prudents et... moi, je veux bien qu'on appelle ça un dialecte, hein, ça me gênera pas. L'essentiel, c'est qu'on continue à le parler, c'est tout.
Oui, alors justement, les spécificités du parler sartois, est-ce qu'il y a, des mots, il y a des prononciations, il y a peut-être une grammaire,
alors,
des orthographes particulières?
Ouais, là encore, je me réfère toujours à Verdier, hein, qui a fait une grammaire du Homène, qui a également fait un vocabulaire du Homène, sur lequel nous nous sommes inspirés pour réaliser notre dictionnaire du parler, qu'on appelle le trésor du parler sénement, un titre un petit peu maladroit derrière mon avis. Eh ben oui, il y a d'abord des mots, hein, des tournures. Tout à l'heure, volontairement, j'employais la tournure, le saké. Hein, on ne dit pas sait, on dit saké, par exemple. Hein, en manger comme saké avec la forque que saka, c'est forcé que ça coille. Hein. voilà le genre de plaisanterie encore qu'on aime bien dire chez nous. Il y a des mots irremplaçables que le français ne connaît pas.
Par exemple,
pinger. Donnez donc l'équivalent de pinger en français, vous parviendrez pas. Et puis il y a aussi des mots que le français a perdu. Allez, va donc crier un seil. Va donc chercher. Nous, on va dire va chercher en parisien. En vrai français qu'il met. Une seil, c'est pas un seau. Hein, c'est pas un sio, c'est un seil. C'est pas pareil non plus. Il y a des mots que le français a perdu ou des mots qui ont été créés aussi. C'est tout émaillé. Hein, émaillé. C'est pas ému, hein, c'est quelque chose de différent. Et sequioté. Alors que c'est beau ce mot, sequioté.
Alors hein. Je ne connais pas celui-là.
Sequioté, je me demande si ça ne vient pas de l'anglais. Je suis vraiment un mauvais angliciste. Hein. Quiet, ou je ne sais pas quoi, Q-U-I-E-T.
D'accord.
Sequioté, c'est se réfugier, c'est se blottir. Se blottir, c'est pas vilain, mais se quioter, c'est encore bien plus beau. Hein,
ouais,
donc, quioter, montamère.
Et ce qui est assez étonnant, c'est quand on se promène dans la rue, on voit aussi des enfants qui parlent. Il y a toujours cette expression sartoise qui revient, qu'on retrouve dans les écoles, c'est l'interjection « eula ».
Ah oui, « eula ». Alors là, c'est ben chez nous, ça aussi. Hein. Alors, est-ce que ça veut dire « hélas » peut-être.
Hein,
mais en tout cas, ça veut dire, ça manifeste la surprise, parfois un peu l'inquiétude. C'est là encore irremplaçable.
Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un mot, c'est une interjection qui s'est transmise et qu'on entend encore régulièrement aujourd'hui. Donc, c'est resté dans le vocabulaire.
Alors, c'est resté dans le vocabulaire. Et là aussi, on aborde une question qui m'a toujours impressionné, un petit peu troublé. C'est, avec l'association, quand on avait sorti l'association sur le parler, quand on avait sorti notre dictionnaire, on avait réalisé une sorte de jeu. D'ailleurs, qu'on refera aussi à quelques occasions. Il doit y avoir, je crois, dans un mois ou deux, à Sargé-l'Élément, une journée tournée spécifiquement sur le parler, et on organisera ce qu'on appelle les épreuves du certificat d'études patoisantes.
Mmh.
Ça consiste à demander aux gens de traduire des formules, je sais pas moi, se caler en balle la Marie de Picalimbourie, et qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, hein, où elle attrapait un chourferdi.
Ça c'est plus connu déjà.
Les canyons novlaines de la vermine, hein, ça a toujours... je pourrais en énumérer des dizaines. Et alors, on procède à ces épreuves, et on demande aux gens de traduire. Et s'ils ont bien traduit, ils se voient remettre un diplôme très officiel de certificat d'études patoisantes. Eh bien, j'étais surpris de constater que les personnes les plus âgées, bien sûr, une évidence, elles connaissent, mais les jeunes connaissent beaucoup de mots.
Mmh.
On leur dit, vous patoisez, non, vous comprenez pas, non. Mais si vous leur donnez une phrase, hop, ça y est, ils vont tout de suite comprendre. Et je suis souvent surpris de voir quelle est la connaissance des jeunes. Ça s'est trouvé imprégné auprès des grands-parents, auprès d'un cousin.
Je vous propose maintenant une petite pause avec donc un texte de Roger Verdier, le Berton, qui a été dit dans les années 80 par Maurice Rondeau, qui habitait Fresnay-sur-Sarthe. Donc le Berton par Roger Verdier.
Le Berton. Le père Berton, il était de la Bretagne. Et ça n'a rien de ben étonnant. Mais quand il vint en notre campagne, non, vimain qu'il était bertonnant. Il causait point en tout le bourgeois, et corbin moins le patois de la ferme. Comme dit notre pas tout le gars à quoi, un sourmuet aurait autant de charme. Non, ce madon à faire des grimaces, pour le commander à la moisson, mais le chien y mordit la fesse, faute d'avoir compris notre leçon. En son jagron, le vieux y postait, si ben que le chien pointu d'oreille, il recommence ici là où de côté, histoire d'y rendre l'appareil. À table, il t'est en son assiette, mangeait et buvait en barton. S'il n'avait jamais besoin de fourchette, reste à savoir pour le litron. Le soir, il dormait en le coffrasson, dans un racoin de nous t'écuirie. Mais comme il ronfiait en barton, il mangeait en grande furie. Le dimanche, il sortait sa bousine. Et ce jour-là, non le comprenait mieux. Il serinait la paligourdine pour faire giguer jeunesse et vieux. À Pâques, il partit à confesse. Non, c'est toujours ben enquéré, savoir dès que quand c'te paroisse, il a ben pu dire au curé. Il crescit de fausse indigestion, le soir que dans le bout sa quête est faite. Non, dit donné l'absolution, dans un latin des plus honnêtes. Mais il pas moins loin de son canton, il te défendit en breton.
Alors, lorsqu'on se promène en Sarthe, il est coutume d'entendre ou de dire qu'on ne parle pas patois ou parler sartois entre le nord et le sud de la Sarthe, ça c'est bien connu, mais aussi même entre deux villages voisins. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une légende, ce truc-là?
Ah, il y a même, oui, des gens qui disent « Oh ben, vous n'avez qu'à aller dans tel village, vous ne comprendrez rien, hein, alors que vous habitiez à 25 km ou 10 km. » Alors là, parenthèse, les Sartois sont modestes, sont discrets. Mais en réalité, c'est des sacrés baratineurs. Hein. Il suffit d'écouter un Sartois vous raconter l'histoire de la ferme de Chia pour comprendre que les Sartois n'ont rien à envier aux Marseillais. Et je crois que là aussi, sur ce plan, ils exagèrent un peu. Parce qu'ils n'auront pas compris un mot, ils vont déduire qu'on ne parle pas le même langage. Le parler sartois, comme tous les langages régionaux, c'est un parler que les gens se sont attribués, et chacun a son parler. Chaque famille a son parler, si on va aller par là. Moi, j'ai une cousine, quand elle était en colère, elle disait, ça va être Verdun. Bon, ben, c'était pas du tout. Mais c'était son parler, c'était le parler de Suzanne. Et donc, il y a le parler de tel village. Mais il faut pas entendre, faut pas en déduire immédiatement que ce parler est incompréhensible pour les autres. Il y a des originalités, il y a des nuances, mais on a un parler global qui, comme on le disait tout à l'heure, correspond plutôt à un ensemble linguistique géographique beaucoup plus vaste.
Et assez cohérent au final.
Et finalement assez cohérent, oui.
Alors, existe-t-il des écrits sartois? Et puis par rapport à ces écrits, quelle est la place de l'oral?
Alors, le sartois est fait pour être parlé, comme tous les parlés, justement. Et curieusement, ce sont des, je mets des gros guillemets, hein, mais ce sont des intellectuels. Ce que j'appelle des intellectuels, c'est des gens comme Verdier, c'est des gens comme René Langlais, je n'en ai cité que d'autres, mais on parlait tout à l'heure de Maurice Rondeau qui parle merveilleusement le sartois, qui glorifie le sartois. Souvent, ce sont des gens qui sont des gens de l'écrit et qui parlent du sartois, qui écrivent sur le sartois. Mais les paysans eux-mêmes, par définition, ils n'ont pas envie d'écrire. Quand ils écrivent, ils se croient obligés d'écrire en bon français, guillemets, à bon.
Je vous propose tout de suite de retrouver un enregistrement de 1956. Donc on va retrouver quelques accents intéressants de ce parler sartois, puisqu'il s'agit de Madame Ribemont, qui est née à La Guerche en 1866. Donc on change de siècle pour le coup. Et qui nous raconte alors quelque chose d'assez intéressant, c'est l'arrivée, le passage d'un ballon dirigeable tombé près de Conly pendant la guerre franco-prussienne 1870-1871. Alors écoutez bien, parce que c'est pas toujours simple à comprendre, on est vraiment sur du vieux parler sartois, qui remonterait ce qu'on pouvait entendre peut-être au début du 20e, fin 19e. Voilà, Madame Ribemont.
T'as vu les ballons aussi?
Ah, le premier ballon que j'ai vu, moi, c'était à la gendarmerie, c'était pendant la guerre. C'était un ballon qui a parti de Paris au milieu des Prussiens. Oui, il allait à Conly, de Paris.
Où?
À Conly.
Ah bon?
Oui, de Paris.
Oui.
C'était bien la direction.
Oui.
C'est moi qui l'ai vu la première. C'est tout cognon, j'étais comme ce petit gars-là. Oui. J'ai dit à papa, tiens, il disait que donc non, voilà comme ça. Ils l'ont regardé, là, ils ont dit c'était un ballon. Pratiquement, il sortait dans la cour. Oui. Et puis, ma foi, ils l'ont regardé, il a descendu là, entre la gorge de mon biseau et le pont de pierre. Ah bon?
Oui. Et mon père, il a tiré dessus. Mon père, mon bonhomme, il a tiré dessus pour le portail de sa mort.
Ah oui, sur la ficelle?
Ah oui. Il a descendu là. Il avait des pochées de lettres. Je ne sais pas où il portait ça, j'en sais rien. Et puis ils l'ont de gonflé là, et puis dans de petites nappes, j'en sais rien.
Ah oui, ils l'ont laissé.
J'en
sais
rien. Mmh. Pour de petites nappes.
Ah oui.
Oui. Ah oui. Ah, c'est terrible. Et puis il avait demandé aussi si c'était des Prussiens, parce qu'il y avait des soldats partout aussi.
Oui, ben oui.
Il a demandé si c'était des Prussiens qui étaient là, ou bien si c'était des Français.
Ah oui.
Ah oui.
À l'heure de la mondialisation d'Internet, des télécommunications, à quoi ça sert de militer pour la conservation de ce parler sartois?
Alors, militer pour la conservation de ce parler sartois, d'abord, premièrement, c'est se faire plaisir, et d'une. Il n'y a rien de plus jouissif que d'écouter ou de prononcer des mots. Je dis bien jouissif. Hein, il y a des mots qu'on aime bien, la bouche, tout en soi exprime le plaisir de prononcer ces mots. On mord dans les mots. Hein, le sartois se mord, se mâche. Deuxième raison, pour des raisons plus intellectuelles, militer pour la conservation de ces mots. Car il est des mots qui, sinon, seraient perdus. Et donc, le patois, c'est une sorte de... Je fais toujours l'erreur, hein, le parler, c'est une sorte de conservatoire linguistique. Et là, je voudrais lancer un appel. Adoptez un mot. Prenez un mot qui vous plaît dans le parler de chez nous et dites-vous bien, je vais le protéger, ce mot. Je vais faire en sorte qu'il ne meure pas, qu'il disparaisse pas. Donc, chacun adopte son mot et prend soin, dans une conversation, de, si l'occasion s'y présente, évidemment, hein, de glisser ce mot qui surprendra peut-être quelques oreilles, qui sera peut-être repris par quelqu'un, ou pas, j'en sais rien, mais qui au moins pourra être en quelque sorte, pourra survivre à cette menace générale. Moi, je sais bien que c'est pour moi souvent une grande satisfaction quand l'occasion s'en présente, et plus la personne est haut placée, plus je suis heureux de lancer le mot. Quand j'ai devant moi quelqu'un qui par ailleurs m'impressionne, eh ben, je me fais le plaisir de glisser un mot ou une expression. Ça détend parfois l'atmosphère. Je ne sais pas si l'autre prend bien, mais en tout cas, je me fais plaisir. Hein. Je crois qu'on est sur cette terre pour se faire plaisir, et le parler nous permet d'avoir ce type de plaisir qui finalement coûte pas bien cher et fait de mal à personne.
C'était Le Parler Sartois avec Serge Bertin, ethnologue, interviewé par Franck Pohu dans Racines et Patrimoine, un magazine coproduit par Fréquence Sillée 97.9, Radio Alpes-Mancelles 106.3 et Le Pays de la Haute-Sarthe. À la réalisation technique, Emmanuel Bouger et Nathalie Lotin.